Vous écoutez Arabelle, il est 19h, place à l'info.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque mercredi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Destination élection ce soir dans Place Publique. Dans 4 jours, nous votons. Quels sont les enjeux pour Bruxelles lors des élections régionales de ce dimanche? C'est la question de Place Publique ce soir. Je lis vos SMS au 0488 106 800. Sont avec nous Place Publique ce soir Barbara Tracht, candidate écolo pour le Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Marc-Jean Geysels, candidat sur la liste PS pour le Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Osni Essayouiki, candidat Les Engagés pour le Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Gabriel Persons, candidat MR pour le Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Gérard Mugeman-Gango, candidat PTB pour le Parlement bruxellois. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus. Place publique commence maintenant.
Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
Ce dimanche, nous votons notamment pour élire les députés du Parlement bruxellois. Commençons cette émission avec la question du pouvoir d'achat et de l'emploi. Le taux de chômage en région bruxelloise est de 15%. Cela représente 90 000 chômeurs, essentiellement des jeunes. Comment les activer sur le marché de l'emploi et comment créer de nouveaux emplois? C'est la question que je pose tout d'abord à vous, Barbara Tracht, écolo.
Oui, vous avez raison de commencer par cet enjeu qui est un enjeu crucial pour la jeunesse en région de Bruxelles-Capitale, la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse. Il est vrai que ces dernières années, le taux d'emploi a augmenté, le nombre d'entreprises également. On a aussi élargi l'accès à l'entrepreneuriat, ce qui donne des perspectives, ce qui ouvre des perspectives à beaucoup de personnes. Mais en effet, il y a encore trop de demandeurs d'emploi ou trop de personnes qui ne trouvent pas d'emploi sur le territoire de notre région. Alors, on a identifié quelles sont les filières de demain, les filières dans lesquelles il y a la prospérité économique à aller chercher, mais aussi des emplois qui vont être créés. Ces filières, ce sont les métiers verts, ce sont ceux de la construction, de l'alimentation, de la logistique, de la gestion des déchets. Ce sont aussi des secteurs de la santé, par exemple, ou des industries culturelles et créatives. Dans ces secteurs-là, il y a dans les prochaines années, des dizaines de milliers d'emplois qui vont être créés. Donc aujourd'hui, les politiques économiques ont été redirigées vers ces secteurs-là. Aujourd'hui, les politiques de formation doivent aussi l'aide pour permettre aux demandeurs d'emploi d'être bien formés et de pouvoir acquérir ces métiers demain.
Marc-Jean Geysels, PS.
Oui, pour nous, ce qu'il est important de rappeler, c'est que quand on parle d'emploi, on parle d'un emploi de qualité avec une rémunération correcte pour les travailleurs. Alors, il nous semble important, compte tenu de la problématique, c'est vrai que c'est près de 90 000 demandeurs d'emploi, c'est d'accompagner mieux les demandeurs d'emploi. On constate bien souvent qu'à Bruxelles, c'est un problème de formation qui fait que le travailleur ne trouve pas un emploi. Ça me semble vraiment, évidemment important. On voit aussi à Bruxelles qu'il faut lutter contre la discrimination à l'embauche, ça nous semble essentiel. Il faut aussi une connaissance et une protection des travailleurs dans les métiers urbains et ouvriers. Il y a toute une série de nouveaux métiers qui se développent au niveau de la ville. Il y a aussi des secteurs en pénurie, comme l'ORECA, qui est un secteur important, parce qu'en plus, le soutien à l'ORECA me semble important pour la vie urbaine. Et alors, je pense aussi qu'il est important d'articuler les politiques de formation et d'emploi avec les employeurs.
Osni Essayouiki, Les Engagés.
Donc, concernant l'emploi, chez Les Engagés, le premier point, c'est d'augmenter les salaires. Le souci, c'est qu'actuellement, les personnes qui sont au chômage ou demandeurs d'emploi, je ne pense pas que c'est un manque d'opportunités de travail. Du travail, il y en a. Je pense que chaque territoire, il y a énormément d'offres d'emploi. Mais le gros souci qu'on a, c'est que le différentiel entre le chômage et le travail est quasi nul. Donc comment motiver des jeunes ou des personnes à aller travailler quand on gagne la même chose en restant à la maison? Donc les engagés, eux, s'engagent à augmenter de 500 euros net chaque travailleur actuel ou qui se réoriente vers l'emploi. Et donc je pense que la problématique, elle est là et que ce n'est pas un manque d'emploi ou autre, mais juste revaloriser le travail.
Gérard Mouguet-Magango, PTB.
Effectivement, nous avons 90 000 chômeurs, surtout des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Mais bon, c'est quand même un problème de chiffres parce qu'il n'y a que 45 000 offres d'emploi chez Actiris, par exemple. Donc, il y a des emplois qu'on ne peut pas trouver. Nous, au PTB, on a des grands projets, donc pour répondre aussi à l'urgence sociale qu'on a sur Bruxelles. Donc, par exemple, la question de la rénovation des bâtiments et la question effectivement des bâtiments énergivores. Près de 99% des bâtiments sont à refaire. Et donc, nous, on voudrait créer une société publique qui s'occupera de ces travaux-là. Avec un système de tiers payant que j'expliquerai plus tard. Et alors, on doit aussi répondre aux enjeux de mobilité. Hein, donc, on a bien connu les problèmes de mobilité. On veut augmenter de 20% en fait les capacités de la STIB, ce qui va aussi générer de l'emploi. Mais on a aussi d'autres mesures, comme par exemple, on veut aussi conditionner les aides aux entreprises à une garantie d'emploi, parce que maintenant, on les aide, mais il n'y a pas de garantie d'emploi. On demande toujours plus aux chômeurs ou aux travailleurs de chercher de l'emploi, mais il n'y a aucune obligation en ce qui concerne les patrons. Et donc ça, c'est un truc qu'on veut changer. On veut aussi embaucher suffisamment de personnel chez Actiris, parce que même chez Actiris, on n'a pas assez de travailleurs pour pouvoir encadrer correctement les chômeurs. Et alors, on voudrait aussi pouvoir centraliser sous un ministère toutes les compétences liées à l'emploi à la région bruxelloise.
Gabriel Persons, MR.
Oui, bah écoutez, la première chose qu'il faut pour créer des emplois, ce sont des employeurs. Or, le constat que fait le mouvement réformateur ici à Bruxelles, c'est qu'il y a 3000 entreprises qui quittent la capitale tous les ans. Et ça crée évidemment un gros déficit au niveau de l'emploi. Alors, Actiris dispose actuellement de plus de 80 000 demandeurs d'emploi inscrits et dispose de plus de 110 000 offres d'emploi. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à faire le match. Et lorsqu'on s'interroge sur cette question-là, quand on sait notamment que Actiris a quand même un budget qui avoisine les 800 millions d'euros, eh bien on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas d'évaluation qui est faite d'Actiris sur base du critère de remise à l'emploi. Donc ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire, ce sera d'évaluer le travail d'Actiris sur base de ses résultats en termes de remise à l'emploi. Alors, il y a évidemment un point qui est de toute première importance, c'est que lorsqu'on vérifie la disponibilité sur le marché de l'emploi des demandeurs d'emploi, on se rend compte, et c'est sur base du rapport d'activité d'Actiris, que seulement 26% des évaluations sont positives. Cela veut dire que toutes les autres évaluations aboutissent à la conclusion que le demandeur d'emploi n'est pas suffisamment actif dans la recherche d'un emploi. De là, deux propositions pour le mouvement réformateur.
La première, rapidement,
c'est de limiter dans le temps les allocations de chômage, parce qu'on pense que ça va mobiliser un grand nombre de demandeurs d'emploi. Et la deuxième, c'est évidemment de creuser l'écart entre les personnes qui travaillent et les personnes qui ne travaillent pas.
Destination élection revient dans un instant. C'est Place publique que vous écoutez sur Arabelle. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, Place publique sur Arabelle.
Destination élection ce soir dans Place publique. Dans 4 jours, nous votons. Nous nous intéressons ce soir aux élections régionales de ce dimanche pour Bruxelles. Parlons à présent du logement. Est-ce que les Bruxellois pourront encore se loger à l'avenir? Quelle est votre proposition, Barbara Tracht, écolo, pour résoudre cette crise du logement à Bruxelles?
Oui. Alors la crise du logement qu'on connaît à Bruxelles, ce n'est pas une crise du logement classique, c'est une crise du logement abordable. Il devient de plus en plus difficile, même dans des familles où il y a deux revenus, de se loger ou de trouver un logement qui correspond aux besoins, de payer le loyer, mais aussi de payer les charges et de payer les factures énergétiques qui ont beaucoup augmenté depuis la crise en Ukraine. Donc on doit lutter contre la spéculation, contre les explosions de loyers, mais aussi réduire les consommations énergétiques. Alors pour ça, il faut évidemment augmenter le logement public existant, mais aussi rendre le parc locatif privé plus accessible, notamment à travers les agences immobilières sociales, à travers les allocations loyers ou bien à travers des grilles de loyers indicatives qui pourraient servir de base à des politiques publiques. Mais aussi, donc ça c'est pour rendre le logement privé plus accessible, mais aussi travailler sur bien entendu sur les rénovations des logements, les rénovations énergétiques et notamment dans le logement social, dans le logement public qui doit être exemplaire de manière à la fois préserver les générations actuelles, réduire les factures énergétiques pour les générations actuelles, mais aussi les générations futures en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre.
Rapidement, en quelques secondes, c'est à la portée de tout le monde ces rénovations?
Ce n'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit développer des instruments et des mécanismes qui sont différents en fonction effectivement des moyens des personnes qui vivent dans les logements, en fonction du fait qu'on soit propriétaire ou qu'on soit locataires. C'est une urgence, il y a une urgence climatique, une urgence en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et les premières victimes sont souvent les personnes les plus défavorisées, celles qui, ont sont le moins responsables de ces émissions. Et donc on doit concentrer les efforts publics sur ces populations qui sont les plus défavorisées et qui ont le plus besoin de moyens.
Marc Jean-Gaïssel, PS, comment est-ce qu'on va résoudre cette crise du logement à Bruxelles ?
Il faut augmenter l'offre de logement, donc il faut lutter contre les bailleurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont des comportements tout à fait abusifs, certainement, mais il faut aussi offrir un plus grand nombre de logements publics. Et pour ça, il faut pouvoir construire dans des terrains en friche. Et là, il faut dire que Nawal Ben Amou, qui a, à la fin de cette législature, créé plus de 2000 logements publics et 1900 sont encore en voie de finalisation, a quelquefois été bloqué par nos partenaires, notamment, je prends le dossier Jaffa, l'historique des Dames Blanches, là, c'est et les engagés qui nous ont aussi bloqués. Donc il faut renforcer le PS aux prochaines élections régionales pour permettre de développer une politique plus volontariste en matière de logement social. Ça, je crois que c'est vraiment très important. On a aussi agi sur les AIS, on a aussi agi sur les allocations logement, et je crois que c'est une politique qu'on doit pouvoir développer.
Ce que vous dites ne fait pas sourire Hosni et Sawiki, les engagés.
Je ne suis pas ici pour faire sourire mes collègues.
Hein. On est deux. Moi, tout d'abord, je vais revenir un peu sur ce que nos collègues ici ont dit. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on essaie encore une fois de diviser les citoyens entre les propriétaires et puis les locataires, puis les logements sociaux, etc. La problématique à Bruxelles, c'est qu'il n'y a pas assez de logements parce qu'on ne laisse pas les indépendants, les entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, investir à Bruxelles pour construire. Actuellement, quand on demande un permis d'urbanisme pour construire un immeuble, pour faire du logement, pour les Bruxellois, il faut attendre entre 2-3 ans. Et puis, bien sûr, on demande des normes énergétiques. Donc, il faut retaper la maison, il faut mettre ça au point. La commune débarque, non, ça c'est pas bon. Ce qui fait du retard dans tous les projets immobiliers. Ce qui fait que ces promoteurs immobiliers qui doivent construire des logements à Bruxelles se retrouvent bloqués. On en a de plus en plus qui ne veulent plus construire à Bruxelles parce que ça devient invivable, ni au niveau permis urbanistique, ni au niveau des critères écologiques. Je suis pour l'écologie, mais ça ne doit pas être à 100% écologique. On doit pouvoir être dans une réalité de terrain qui est Bruxelles. Donc il y a des logements qui datent de très longtemps, qu'on peut faire aménager petit à petit. Comme vous l'avez très bien dit, M. Nicolas, c'est qui est capable de rénover ces bâtiments-là. Je pense que la plupart de Bruxelles n'ont pas les moyens pour cela. Donc il faudrait un accompagnement là-dessus, et surtout laisser les gens construire des logements. Après, je reviens par rapport au PS. Les logements sociaux, c'est très bien, donc construire 1000 ou 2000, mais par rapport au prorata de population à Bruxelles ou 4000, prorata de la population de Bruxelles qui attend depuis 15, 20 ans un logement social, à un moment, il faut arrêter de se moquer des Bruxellois. Parce que moi, j'ai des personnes que je côtoie tous les jours. Moi, je suis un fils des logements sociaux. Moi, quand mes parents ont reçu un logement social à 21 ans, j'ai cru que c'était une réussite sociale. On a dû l'attendre 15 ans. Donc, maintenant, je ne sais pas comment ça va se dérouler parce que la population augmente de plus en plus à Bruxelles. Donc, pour conclure, laissons les gens qui veulent investir, qui veulent construire du logement à Bruxelles, facilitons-leur la tâche au lieu de les bloquer. Et cette répercussion-là se tape directement sur le loyer. Si on avait plus de logements, moi je suis un entrepreneur, on diminue, il y a l'offre et la demande, c'est mathématique. On a plus de logements, les loyers diminuent, on les bloque moins avec toutes ces envies écologiques, avec ça à remettre en place. Et je pense que la solution, elle est beaucoup plus simple que ça que de taper que sur du logement social et d'enfermer les gens dans l'assistanat et la précarité pendant 20-30 ans et d'attendre 15 ans pour un logement social.
Gérard Mouguet-Mangango, PTB.
Ben, je trouve un peu bizarre que vous dites que vous êtes un enfant du logement social et que vous critiquez le logement social. Donc non, effectivement, il ne faut pas laisser en fait la ville au baron du béton. Et par contre, là où je suis d'accord, il ne faut pas opposer les locataires et les propriétaires. Nous, notre modèle, c'est un modèle comme il se passe maintenant à Vienne, où justement, plus de 40% du logement est dans les mains du public, et donc avec des loyers contrôlés. Donc on veut une grille des loyers contraignante. Et avec des loyers contrôlés, ça permet non seulement de maintenir le prix des logements à la location, mais ça permet aussi de maintenir les prix à l'achat, parce qu'il faut se rendre compte qu'à Bruxelles, il n'y a plus personne qui sait acheter. Donc le taux de propriétaire ne fait que diminuer, surtout les jeunes. 70% des gens qui achètent, ils sont aidés par leurs parents, et c'est évidemment pas le modèle que nous voulons mettre en avant. Nous, ce que nous voulons mettre en avant, c'est justement construire plus de logements, parce que c'est vrai qu'il y a des logements à rénover, mais il n'y en aura pas assez, donc il faut les rénover, il faut aller voir les logements vides, mais il n'y en aura pas assez pour rencontrer les besoins des Bruxellois, parce que c'est vrai, 4 ou 5 000 logements par an, ça nous fait 10 ans avant de pouvoir résorber la liste de 56 000 familles qui attendent, sans compter que 50% des Bruxellois sont en droit d'avoir en fait un logement social. Et donc, notre projet, c'est plutôt de créer une société public qui fera des plans cohérents aussi, parce qu'il y a un problème d'incohérence de chacun de rénover de son côté, un plan cohérent de rénovation quartier par quartier qui créera de l'emploi et qui se fera payer sur, en fait, l'économie d'énergie que les gens font par rapport à la rénovation de leur logement, ce qu'on appelle le tiers payant. Donc c'est une solution qui est adoptée effectivement en Allemagne, où ils ont réussi à construire 4 millions de logements, ils ont économisé 9 millions de tonnes de CO2, et donc c'est une solution qui marche, il n'y a aucune raison de ne pas l'adopter.
Osni Essaouiki vous répond 15 secondes.
Je vais juste reprendre. Je suis un enfant des logements sociaux parce que je l'ai vécu, c'est pour ça que je le critique. C'est-à-dire que moi, j'ai un vécu là-dedans, en sachant que les logements sociaux sont totalement délabrés et que malheureusement, avec 30 ans de gauche, le logement social est devenu une finalité pour certains. Nous, quand on a reçu le logement social, mes parents l'ont reçu, moi, j'ai cru que c'était une réussite, on avait réussi quelque chose dans notre vie. Alors qu'à la base, le logement social, ça vous le savez, c'est un appartement ou une maison de transit pour justement passer en classement. Et donc, on passe d'une classe pauvre, donc assistée, un classe moyenne. Actuellement, quand j'entends certains de la gauche, c'est que le logement social, c'est une solution définitive pour certains Bruxellois. En tout cas, moi, de mon côté, chez les engagés, c'est de faire en sorte que les Bruxellois gagnent plus, qu'ils sortent justement de ce social pour aller s'émanciper, prendre des appartements plus beaux, plus propres. Donc c'est là où je réponds juste à votre répartie en me disant que je suis né dans les logements sociaux et je les critique. Je les critique parce que j'ai vécu dedans et je sais que normalement, ça doit être un appartement de transit et non un appartement de vie.
Gabriel Persons, MR, vous êtes évidemment d'accord, j'imagine, avec ce que dit Osni Essaouiki.
Ben, je le rejoins tout à fait. Et ce qui est vraiment criant, c'est le manque de vision qu'a eu le gouvernement bruxellois sur cette matière. Aujourd'hui, comme le disait mon collègue du PTB, près de 50% des Bruxellois rentrent dans les conditions pour avoir un logement social. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tous les acquérir, la moitié de Bruxelles? Les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. Notre collègue du Parti Socialiste nous explique le merveilleux bilan de notre ministre du Logement. Il va manquer 40 000 logements à Bruxelles d'ici 2030. Qu'est-ce qu'elle a construit? 4 000 logements sociaux. Et ce qui me fait le plus peur, c'est le manque de planification en matière de logement à long terme. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la moitié de la région vive dans un logement social? Moi, je rappelle quand même que si on veut redresser la situation économique de Bruxelles, c'est en ayant une population qui gagne suffisamment d'argent que pour payer de l'impôt. Or, je viens d'une commune bruxelloise, Watermael-Boisfort pour ne pas la citer, où nous comptons 18% de logements sociaux. Donc je sais très très bien l'effet que ça a sur le budget d'une commune d'avoir une telle proportion de logements sociaux. Alors moi je suis tout à fait d'accord et j'encourage le fait qu'il y ait une partie du bâti qui soit en logement social. Mais aujourd'hui, ce dont Bruxelles a besoin comme de pain, c'est que des jeunes couples qui travaillent viennent s'installer à Bruxelles. Et aujourd'hui, il y a 3000 entreprises qui quittent Bruxelles tous les ans, mais il n'y a personne qui a les moyens financiers de venir acquérir à Bruxelles lorsqu'ils sont jeunes travailleurs. Et donc ce que l'EMR propose, ce sont deux choses. La première chose, c'est qu'il faut favoriser l'acquisition de logements par les jeunes ménages. Et là, on souffre évidemment de la concurrence fiscale de la Flandre, puisque les droits d'enregistrement, ils sont à 3%. Or, à Bruxelles, ils sont à 12,5%. On sait très bien que pour la plupart des jeunes ménages, et je l'ai vécu moi-même, acquérir un logement sans l'aide de papa et maman, c'est fini.
Donc réduction des frais d'enregistrement.
Et également,
il y a un abattement, mais il faut quand même, il faut pas l'oublier, parce que en une minute, c'est dommage de devoir donner tout un programme. On travaille aussi sur la facilité d'acquisition, parce que on a intérêt à avoir des habitants qui sont propriétaires de leur logement.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, les personnes qui désirent acquérir un logement ont besoin d'apporter non seulement les droits d'enregistrement, mais également 20% de la valeur du bien. Moi, je pense, avec le mouvement réformateur, que nous devons permettre de prêter via un prêt garanti de la région cet apport pour qu'il soit remboursé dans le temps. Et puis, il y a un autre sujet qui doit absolument être abordé.
Rapidement.
C'est l'accélération des processus de rénovation. Voilà. Aujourd'hui, pour celui qui veut rénover son logement, soit pour le scinder, soit pour le revendre, soit pour l'habiter, c'est un chemin de croix. Il faut l'avis d'à peu près 16 organismes publics. Ça prend des mois. Dès que l'administration peut aller à fond de délai, voire renouveler le délai, elle y va. Aujourd'hui, pour les gens qui veulent rénover leur bâti, c'est un enfer.
Voilà qui est dit. On marque une courte pause, quelques secondes. On se retrouve pour la suite de Place Publique juste après.
19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
Nous nous intéressons ce soir aux élections régionales de Bruxelles de ce dimanche et Jean Kitenge défie nous à rejoindre ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Le PS gouverne la région bruxelloise, entre autres avec défie. La ministre-présidence, c'est le PS qui a la ministre-présidence à Bruxelles. Parlons de sécurité. Est-ce que la région bruxelloise a des compétences pour assurer la sécurité? Est-ce qu'il y a eu des lacunes dans ce domaine après une trentaine de fusillades? Marc-Jean Geysels, PS.
Alors, il faut peut-être rappeler les compétences du ministre-président. Le ministre-président, il est compétent en matière de maintien de l'ordre et uniquement en cas de défaillance des bourgmestres. Donc la règle, c'est que c'est le bourgmestre au niveau de sa commune qui est responsable du maintien de l'ordre. En matière judiciaire, ni le bourgmestre, ni le ministre-président n'est compétent. Donc il a éventuellement un rôle de coordination, ce qui veut dire qu'il peut inviter autour de la table les différents acteurs, mais l'acteur principal pour la lutte contre la grande criminalité et les tirs, on sait maintenant tous que c'est majoritairement des problèmes de trafic de stupéfiants, relève du parquet, du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur et de la police judiciaire fédérale. Les zones de police viennent en appui de ces autorités et bien souvent, elles pallient même l'absence de la réaction par manque d'effectifs de la police judiciaire. Ça, c'est le cadre, il ne faudrait pas l'oublier. Donc, le ministre-président a agi dans la sphère de ses compétences extrêmement limitées. Mais il y a un constat, et sur lequel ici, autour de la table, tout le monde sera d'accord, me semble-t-il, c'est qu'il manque de policiers et qu'il manque de magistrats à Bruxelles. Ça, c'est une volonté claire du gouvernement fédéral de maintenir une dépendance de Bruxelles. Gouvernement fédéral où on voit que, avec les participations, on va un peu refaire de la polémique, MR, NVA, on a considérablement sabré dans les budgets pour des pouvoirs régaliens. Alors, il y a le problème de la répression, il y a le problème de l'action judiciaire, mais aussi le problème à la base de l'assuétude de certaines personnes qu'il faut considérer non pas comme des criminels, et donc il faut décriminaliser, contrairement à ce que d'autres pensent autour de la table, l'utilisation de stupéfiants, mais il faut les considérer comme des gens qui sont malades et qu'il faut aider. Voilà, si je fais un, parce qu'il y aura beaucoup de réactions là-dessus, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler, qu'on essaye de charger le ministre-président d'une responsabilité qu'il n'a pas légalement.
Le chrono tourne, merci beaucoup. Je me tourne vers Osni Essaouiki, les engagés. Quelle est votre approche de la sécurité à Bruxelles?
Mon approche, elle est en tant qu'ancien agent de sécurité, ancien inspecteur de police. J'ai fait les deux pendant 10 ans, donc j'ai une vingtaine d'années d'expertise là-dedans. C'est que ce que mon collègue du PS dit, que le ministre-président n'a pas de compétence, c'est que c'est lié au stup. Je tiens à lui signaler qu'à Gare du Midi Stalingrad, la personne qui est décédée, à son âme, ce jeune homme de 29 ans qui a reçu une balle dans la tête par un fusil mitrailleur, c'était un règlement de compte suite à une bagarre dans un café. Voilà, c'est pour ça qu'il est mort, non pour un trafic de stup. La personne qui est morte à Laeken, le jeune qui est mort à Laeken, c'était pour une histoire de 1000 euros. Donc il n'y a pas de stup là-dedans, c'est de l'argent qui avait été prêté. Moi, ce qui me sidère là-dedans, c'est que le ministre-président n'a même pas pris la peine de descendre sur les lieux. Il n'y a même pas de communication. On a l'impression qu'un ministre-président n'est même plus... on ne sait pas s'il est là ou il n'est pas là. Concernant la sécurité, nous les engageons, en tout cas, moi avec mon expertise, c'est surtout la police de proximité. Il se passe une chose de nos jours, c'est que depuis 2015-2016, on a la police qui est en confrontation avec la population. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de bleus dans les rues. Quand je dis de bleus, c'est des patrouilles pédestres. On a de moins en moins cette cohésion entre la population et la police. Ce qu'on faisait avant, il y a quelques années, on était à fond dans la police de proximité. Ce que je trouve que, enfin, ça diminue de plus en plus depuis quelques années. Ce qui fait que les gens, les citoyens n'ont plus vraiment cette confiance en la police. Pourquoi on les voit de moins en moins? On les voit juste passer en voiture et ça fait plus une police de répression. Pourtant, on est dans un gouvernement de gauche depuis presque 20 ans et surtout maintenant des 5 dernières années, c'est complètement à gauche. Donc normalement, il devrait avoir une présence beaucoup plus policière et travailler conjointement avec la population. Deuxièmement, la magistrature, en tant qu'ancien inspecteur de police, quand on privait quelqu'un de sa liberté, qui était en détention de stup ou d'armes, etc., dans les 2-3 heures, il était libéré. Pourquoi? Parce que le magistrat était débordé, parce qu'il n'y a pas de suite. Donc il faut une réforme complète, je pense aussi au niveau de la magistrature, leur donner plus de moyens, respecter nos policiers. Parce que malheureusement, les policiers, beaucoup leur tirent dessus en leur disant « oui, ils ne font pas leur travail ». Ils font leur travail. Mais quand ils voient que leur travail n'est pas suivi, justement, par la ministre-présidence, par les politiques, qui ne les calculent même plus, à un moment, ils ont aussi un ras-le-bol en disant « bon, je fais le strict minimum ». Donc, je pense que c'est ça la problématique. Et j'aurais bien aimé que le ministre-président PS, seraient descendus sur les lieux et auraient pris des initiatives directement et des actes forts surtout.
Gabriel Persons, MR.
Peut-être une petite réaction, parce que si je partage...
20 secondes.
Oui, si je partage le point de vue de mon collègue sur la nécessité d'une police de proximité, je voudrais simplement dire que le ministre-président, en descendant sur les lieux dans un dossier judiciaire, se mettrait tout simplement en défaut. Et pour un ancien inspecteur de police, monsieur devrait le savoir. Même dans un cas comme ça, si le bourgmestre va, il n'a pas accès au lieu. Généralement, le bourgmestre y va dans des cas extrêmement graves, mais ce n'est pas la place du ministre-président, sauf dans des cas exceptionnels, parce qu'avec le nombre de dossiers sur Bruxelles, on n'imagine pas que le ministre-président descende à chaque fois.
Gabriel Persons, MR, quelle est votre approche de la sécurité pour Bruxelles ?
Écoutez, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que en matière de sécurité, on récolte finalement le résultat d'une politique totalement défaillante en matière d'emploi, en matière de salubrité de l'espace public, en matière de propreté. Donc, à un moment donné, le sentiment d'insécurité, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a un Bruxellois sur deux qui ne se sent pas en sécurité à Bruxelles. Alors, je m'inscris totalement en faux sur l'accusation qui est faite au gouvernement MRNVA d'avoir réduit les moyens de la justice. C'est pas du tout ça. En réalité, le MR n'est absolument pas pour qu'on augmente. N'est absolument pas contre le fait qu'on augmente les moyens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec les services de police, on se rend compte que ces gens sont fatigués d'arrêter inlassablement les mêmes individus. Aujourd'hui, on arrête un Gus à 12h, à 17h, on le retrouve dans la rue. Et aujourd'hui, le MR n'entend pas augmenter les moyens qui sont donnés au service de police, si ce n'est pas pour que derrière, la justice ne fasse pas son travail.
Barbara Tracht, écolo.
Oui, mais donc, en effet, hein, le droit de se déplacer ou de se promener dans notre région est un droit fondamental, de se promener en toute sécurité est un droit fondamental qui, en effet, hein, suite à des événements qui sont intervenus cette dernière semaine, n'a pas été garanti dans plusieurs situations, à plusieurs reprises. Je pense qu'il faut, comme ça a été dit, davantage de coordination entre les différents niveaux de police, entre les différentes zones de police, davantage de proximité également. Mais pour cela, il faut un financement conséquent, un financement et des effectifs conséquents dans les zones de police bruxelloises ou dans la police fédérale à Bruxelles. Et je rejoins ce que M. Geissel exprimait tout à l'heure sur la nécessité que le fédéral remplissent ses responsabilités, répondent à ses responsabilités. Et je le confirme, sous le gouvernement Michel, hein, la suédoise, le gouvernement fédéral a désinvesti non seulement dans la police, mais aussi dans l'antiterrorisme et dans la magistrature, donc dans des fonctions régaliennes de l'État. Depuis la Vivaldi, on a réinvesti, on a essayé de rattraper, on a été plus loin que le rattrapage de ces 200 millions, ce qui est quand même pas rien, hein, 200 millions en moins dans des fonctions régaliennes. La Vivaldi a investi 500 millions dans les services de police et dans le parquet. Et donc il faut continuer, il faut aller plus loin. Le fédéral doit remplir ses responsabilités, donner des moyens et des effectifs aux services de police bruxelloises, mais pas seulement aux services de police, aussi à la magistrature et au parquet.
On marque une pause avec Slimane et dans un instant, c'est le PTB et des filles qui s'exprimeront sur la question de la sécurité à Bruxelles. Mon amour.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
De retour dans Place publique, destination élections. Ce soir, nous nous intéressons aux élections régionales pour Bruxelles. Juste avant Slimane, nous parlions de sécurité. Jean Kitengé, défi, quelle est votre approche de la sécurité pour Bruxelles ?
Alors, en réalité, on a pu observer qu'il y a eu un petit jeu de renvoi de la balle. Et c'est quelque chose qu'on dénonce en général. Donc, en fonction du niveau de pouvoir dans lequel un parti ou l'autre est, ou alors dans l'opposition, il va en général charger l'autre parti au gouvernement de toutes les responsabilités. Le problème, en fait, est le suivant. C'est que le sentiment de l'insécurité n'a pas attendu qu'il y ait une recrudescence de la violence liée au trafic de drogue pour exister dans nos communes. Parce que, évidemment, notamment pour les femmes, il y avait en effet des problèmes. Et des problèmes où, en fait, le manque et la sanction qui suit derrière, le sentiment d'impunité. Mais évidemment, aujourd'hui, il y a des problèmes beaucoup plus graves qui nécessitent davantage, bah, justement, d'inspecteurs fédéraux dans nos rues. Et là où, oui, le MR et la NVA portent une responsabilité, indépendamment de ce qu'ils vont dire, pour s'en excuser. pour éviter de devoir s'en excuser. Et donc là, le souci est le suivant, c'est qu'en vrai, en réalité, pour les deux parties qui sont sur la table et qui ont tendance à se renvoyer la balle en fonction du niveau de pouvoir où ils sont le plus forts, eh bien, ils sont tous deux au fédéral et ne représentent pas les intérêts des Bruxellois. Et donc, si Défi a bien une chose à dire, et ça rejoint un peu ce qui a été dit au préalable, c'est qu'évidemment, il y a des problèmes structurels qui font que Bruxelles, en particulier, eh bien, ne peut pas répondre à des enjeux de sécurité comme il le devrait. Alors oui, il faut une meilleure coordination au niveau régional, c'est certain, mais il faut certainement qu'au fédéral, eh bien, on puisse représenter les intérêts des Bruxellois, notamment en ayant assez de magistrats, notamment en révisant les normes KUL, parce qu'en effet, à Bruxelles, il y a des enjeux qui sont peut-être plus graves qu'ailleurs.
Gabriel Persson, c'est merveilleux, réagir à ce que vous venez de dire.
Oui, mais écoutez, je réagis pas seulement à ce qui vient d'être dit, mais à toute la discussion autour de la sécurité, pour rappeler quand même qu'au terme de la 6e réforme de l'État, Rudy Vervoort, en tant que ministre-président de la région bruxelloise, avait une responsabilité, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'a pas entendu hurler au loup.
Et oui, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, tout un temps, il y a une forme de laxisme, voire une certaine liaiserie du côté de la gauche sur les questions sécuritaires. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Mais quand vous dites d'un autre côté qu'il faut une réponse pénale répressive à beaucoup plus d'autres crimes, j'ai envie de dire, mais soyons pragmatiques sur la question sécuritaire, parce que c'est de ça dont on a besoin, pas de posture. Donc quand, par exemple, on va envoyer un jeune dealer de drogue dans une prison avec d'autres criminels qui ont commis des actes beaucoup plus graves, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Finalement, on les marginalise davantage parce qu'ils ont accès à des criminels beaucoup plus gros, qui ont commis des actes beaucoup plus gros, et qui, finalement, leur donnent accès à un certain réseau, à une certaine mentalité, à une certaine philosophie de vie. Et puis, on observe aussi quoi derrière? C'est qu'à la sortie de la prison, certains petits criminels sont marginalisés, n'ont pas accès à un ensemble d'aide, sont totalement laissés dans le flou, avec aussi parfois des questions liées à la santé mentale de ceux-ci, qui sont complètement occultées. Et en fait, ceux-ci, finalement, entrent dans une dynamique de continuité, parce que, justement, ils sont exclus de la société. Donc ça, moi, je pense que la question sécuritaire, ce qu'elle nécessite avant toute chose, avant quelconque posture, c'est le pragmatisme.
Gérard Mouguet, Magango, PTB, et puis deux réactions par ailleurs.
Écoutez, moi, ce qui me dérange un peu dans cette discussion, c'est que c'est vrai qu'on a tous des belles promesses dans un programme, mais la question, c'est en fait comment on va les payer? Puisque, effectivement, nous, on veut un refinancement. Un refinancement de Bruxelles. J'ai pas entendu parce que vous parlez en même temps que moi, donc c'est compliqué. Donc, on veut un refinancement de Bruxelles parce que même si Bruxelles produit 20% de la richesse du pays, elle ne reçoit en fait que 9% des moyens. Et donc, avec ça, on ne sait en fait évidemment pas répondre aux besoins qu'ont les policiers d'être équipés, d'avoir plus de collègues. Il y a un policier qui me racontait encore le 3 juin, jour de la manifestation contre l'austérité qui a été signée par les partis de droite et par les partis sociaux-démocrates. Il disait, moi je suis dans mon commissariat de police, je suis tout seul la nuit, tout seul. Et il y a un gars qui sonne, à moitié pété, je ne sais pas quoi faire, je téléphone à mes collègues me disent, tu ne sais pas t'en occuper.
Donc il faut engager et remplir les commissariats de police.
Ah bien sûr, il faut en tout cas avoir plus de moyens, plus de policiers et pouvoir les encadrer. Mais pour ça, il faut arrêter les économies linéaires dans tous les ministères, y compris dans le ministère qui concerne la police. Et aussi, par exemple, la question de la drogue, ça concerne aussi le ministère des Finances. Donc les douaniers ont été attaqués dans leur entrepôt à l'arme de guerre pour récupérer un paquet de drogue. Enfin, on en est là, et parce qu'on n'arrive pas en fait à financer correctement le travail du ministère des Finances, par exemple.
Deux rapides, très rapides réactions. Marc-Jean Gelsels, PS, 30 secondes.
Oui, à mon collègue du MR, qui ne siège pas évidemment au Parlement bruxellois, il n'aurait pas dit ce qu'il vient de dire s'il avait assisté à toutes les commissions affaires intérieures, mais donc je ne lui en veux absolument pas. Et alors, ce qui est formidable aussi, c'est qu'on a la chance... c'est peut-être une petite parenthèse, mais il y a 72 candidats au PTB bruxellois et on nous envoie un député wallon pour parler des problèmes bruxellois. Je trouve ça chouette, mais ça montre combien les candidats PTB sont intéressés par Bruxelles. Mais gardons la touche
positive. Vous vous trompez, moi c'est Gérard.
Gardons la touche positive.
Je suis le frère de Germain, je suis bruxellois, j'habite à Saint-Gilles. J'ai pris à côté de la porte de Halle où il y a eu les tirs, s'il vous plaît.
Gardons la touche positive, j'entends un député wallon qui est d'accord et qui reconnaît que Bruxelles est sous-financée. Et ça, je trouve que c'est très important, parce que c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps. On a évidemment des alliés en Wallonie, on a le PTB comme allié en Wallonie maintenant, mais on a évidemment un blocage énorme du côté de la Flandre. Et ça, il faut quand même le rappeler. Parce que s'il y a une situation de manque de magistrats, de manque de policiers à Bruxelles, c'est parce que Bruxelles, dans toute une série de politiques, y compris les autres politiques qu'on a abordées tout à l'heure, manque de moyens, et c'est une volonté politique très claire de la Flandre.
Gérard Mouguet-Magango.
Pour clarifier, moi je m'appelle Gérard. Donc c'est mon frère Germain qui est député wallon.
Ah d'accord, ben voilà alors.
Voilà, donc,
un dans chaque région.
Et donc j'habite à Saint-Gilles.
Ok.
À la porte de Halle.
Alors toutes mes excuses.
Non, c'est pas grave, comme ça je clarifie pour les spectateurs. Donc j'habite à côté de là où il y a eu effectivement les fusillades. Et la seule réaction qu'on a vue du PS, c'est au moment des élections, ils sont venus faire une charge de police contre toute la population et tout ce qui était jeune et basané se faisait arrêter. Donc ça, c'est la situation qu'on a vue à Saint-Gilles, excusez-moi.
Dernière réaction sur la problématique de la sécurité avec un expert, Osni Essaouiki, les engagés.
C'est, ce qui est stupéfiant, c'est que je me rends compte que les politiques ne sont pas du tout dans la réalité. Ils ont plein de belles phrases, refinancer. Moi, j'ai été policier. Les policiers bruxellois sont très, très bien équipés, parmi les meilleurs, surtout la zone Bruxelles-Nord qui était une zone pilote. Donc du matériel, il y en a. Des voitures, il y en a. Des armes, il y en a. Des casques, il y en a. La réponse à apporter, ce n'est pas celle-là. C'est, comme je le répète encore une fois, de respecter mieux les policiers. La criminalité à Bruxelles, c'est parce que les policiers, à un moment, ils ont un ras-le-bol. Et là, je rejoins le MR. Quand on arrêtait une personne qui agressait une dame ou qui avait violenté une dame ou une autre personne, on fait une privation de liberté. Dans les deux heures, la personne est dehors, elle est relaxée. Donc, ce n'est pas une question de moyens ni d'argent, parce que je pense que ceux qui sont au gouvernement, bien, même le PTB ou autres, ils ont cette facilité de la planche à billets, on va réinvestir, on va payer. Il n'y a pas besoin d'énormément d'argent pour sécuriser Bruxelles. Les policiers sont parmi les meilleurs. Moi, avec ceux avec qui j'ai travaillé, c'est parmi les meilleurs policiers de Belgique. Ils font un très bon travail. Il faut juste les respecter, leur donner les moyens, et pas financiers, les moyens régaliens pour pouvoir faire en sorte que quand ils arrêtent quelqu'un, il y a minimum 3 mois avant qu'ils le revoient sur le territoire. Donc, sortir la planche à billets, c'est très facile. Je pense que la gauche a très facile à ça, envoyer de l'argent. On a vu le déficit de la région actuellement. Mais c'est juste revoir le système régalien dans le sens où les magistrats, on doit leur donner les moyens de faire des privations de liberté. Quand le policier arrête quelqu'un, qu'il sente que son travail a du sens. Parce que le policier bruxellois dont je faisais partie, moi, je ne travaille pas en 10 ans, je ne vous parle pas de ce que vous avez pu analyser ou statistiquement, moi je vous parle de terrain, c'est qu'à un moment, le policier, au bout de 10 ans de travail, il se dit, est-ce que mon travail a encore une nécessité? Et pour terminer, moi j'étais au Coban Brabant, il y a le collègue ici qui avait aussi un Coban à Saint-Gilles ou à Anderlecht. Si on avait encore ces polices de proximité de quartier, cette fusillade, les fusillades qui seraient passées, peut-être qu'on aurait pu agir un peu plus en amont, dans le sens où on aurait été informé qu'il y aurait un stress avec deux personnes ou un début de bagarre ou un début de deal. Donc voilà, c'est juste le résumé de tout ça d'un ancien inspecteur de police.
Voilà qui est dit. On salue évidemment tous les policiers et toutes les policières qui nous écoutent ce soir. Parlons de mobilité, de votre mobilité. Le PS Ahmed Lawedj a récemment remis en question le plan de circulation Good Move. C'est un échec alors, Marc-Jean Geissel, ce plan Good Move?
Je pense que la manière dont il a été appliqué, c'est clairement un échec. C'est clairement un échec par manque de concertation avec les habitants, parce qu'on a l'impression, et moi j'ai ce sentiment-là parce que je l'ai vécu à Forêt au niveau du conseil communal et grâce au PS notamment, on est parvenu à faire démonter des dispositifs, parce qu'il y a certains qui vivent dans des laboratoires fermés et qui décident dans les bureaux de ce qui est bien pour les gens dans leur vie au quotidien. Et c'est ça simplement qu'Ahmed Lawedj dénonce. Donc sur les objectifs, on est évidemment d'accord, il faut une ville moins polluée, il faut une ville apaisée, mais il ne faut pas une ville contre les habitants, il faut une ville en concertation avec les habitants. Mais ça demande évidemment beaucoup de contacts, ça demande l'écoute des habitants, ça demande la rencontre des habitants au quotidien et pas seulement en période électorale.
Gabriel Persons, MR, le MR souhaite la suppression totale du plan Good Move.
Ben, je pense que la première chose qu'il faut bien reconnaître, c'est que le plan Good Move, c'est pas un échec, c'est un naufrage. C'est un naufrage et je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent maintenant et qui sont dans leur voiture, ils doivent bien penser au gouvernement bruxellois. Alors, le MR avait parfaitement consenti aux objectifs, aux finalités du plan Good Move, mais la mise en œuvre ne s'est pas du tout déroulée comme elle l'avait été promise. Ce qu'on constate, c'est qu'un plan qui aurait dû être mis sagement en œuvre sur une décennie, qui visait notamment à apaiser les quartiers pour renvoyer la circulation vers les grands axes régionaux, a finalement été bâclé sur le temps d'un ou deux confinements, et a finalement rabattu sur les axes régionaux, réduit d'une bande, à peu près tout ce qui se déplace à Bruxelles. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir complètement revoir la mise en œuvre du plan. Je prétends pas que tout est à jeter, mais il y a un travail important qui doit être fait. Mais il faut également, enfin, réinvestir dans des alternatives de mobilité qui soient sérieuses. En termes de transport en commun, le mouvement réformateur et David Lester l'a rappelé à de nombreuses reprises. Il faut absolument réexploiter tout le réseau ferroviaire, ce qu'on appelle le réseau S, qui n'est utilisé pour le moment que par 1,6% des Bruxellois. Et puis, évidemment, mais ça je suppose qu'on y viendra, investir dans l'avenir. Et l'avenir de Bruxelles passe aussi par le métro.
On y reviendra. Barbara Tracht, à propos du plan Good Move.
Oui. Ben, on reviendra dans un instant évidemment sur la manière, c'est nécessaire qu'on en parle. Mais je me réjouis d'entendre les intervenants précédents se rallier aux objectifs de Good Move, des objectifs en termes de qualité de l'air, de qualité de l'air pour toutes et tous sur le territoire de notre région, en matière de sécurité routière, de permettre à nos enfants de se déplacer seuls, en matière de fluidité du trafic, de décongestion, de la nécessité de réduire le trafic de transit, en matière de liberté aussi, et d'offrir des alternatives à la voiture individuelle. Et sur ces différents objectifs, on a avancé concrètement au cours de cette législature avec le gouvernement bruxellois. On a investi de manière sérieuse dans les transports en commun. 15% d'offres en plus, hein, c'est 6 lignes de bus en plus, 2 lignes de tram qui sont en cours de construction. Ce sont des vrais investissements. On a avancé également sur la gratuité pour rendre plus accessibles les transports en commun à toutes et à tous. Et les transports en commun, c'est le transport pour tout le monde, accessible à chacune et à chacun. Le nombre de victimes de la route a diminué à Bruxelles ces 5 dernières années.
Et pour les
la qualité de l'air a augmenté. Le nombre de cyclistes a augmenté également aussi. Et chaque fois que vous avez un cycliste en plus, vous avez une voiture en moins. Alors bien sûr que dans la manière, et je peux rejoindre ce qui a été dit par les intervenants précédents, il y a eu à certains endroits, mais pas à tous les endroits, des difficultés, une mauvaise communication, je crois qu'on peut, on peut l'assumer, une nécessité aussi de mieux construire avec les quartiers, de mieux expliquer les objectifs, mais aussi de construire les solutions avec les quartiers concernés. Il y a certainement des leçons à en tirer. Pour atteindre ces objectifs que nous poursuivons tous et toutes, ou en tout cas comme je l'ai entendu il y a un instant.
Nous marquons une dernière pause musicale et puis nous poursuivrons à propos de mobilité à Bruxelles juste après Angèle et Mahmoud. Se revoir à deux jours. Sempre jamais, c'était Mahmoud et Angèle.
Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
Jean Kitenge, défi, le plan Good Move, échec ou succès ?
Mitigé. Je pense un gros échec au vu de la réception dans certains endroits. À d'autres endroits, ça s'est avéré relativement bien accueilli. Moi, je pense qu'au sujet de Good Move, il y a une troisième voie. Il faut bien se dire une chose, c'est que si on veut faire en sorte, parce que c'est logique dans les objectifs, de faire en sorte que la ville soit apaisée, que les gens prennent moins la voiture, parce qu'on est dans une petite ville, mais il faut bien se dire qu'au préalable, il faut avoir un service public qui soit optimal. Il faut au préalable être certain que, par exemple, dans toutes les zones de Bruxelles, on puisse y accéder en moins de 30 minutes dans l'idéal. Mais je vous invite à prendre avec les transports publics, essayer de faire Ever, pour prendre une autre polémique, Ever Uccle, et vous allez voir que ça va être une véritable galère. Le problème, il se trouve là au préalable, c'est qu'on n'a pas une alternative qui, aujourd'hui, invite les citoyens à ne pas se prêter à la voiture. Et je vais donner un exemple concret dans les solutions qu'on propose. On veut plus de métro, c'est une évidence, parce que j'ai dit au préalable qu'il nous faut réussir à relier toute la ville en moins de 30 minutes. C'est un idéal poursuivi. À côté de ça, il faut des métros de nuit. Parce que comment font les gens qui, par exemple, vont travailler la nuit, ou tout simplement les jeunes comme moi qui veulent sortir? Ils sont obligés d'avoir une voiture, ou alors prendre un taxi. Avec aussi toutes les mauvaises affaires, sans rentrer dans la polémique et dans l'hystérie de taxis qui s'attaquaient particulièrement aux jeunes femmes. Et donc là, il est clair que, par exemple, à l'instar d'autres capitales européennes, il serait intéressant d'avoir des métros de nuit. Et donc davantage d'investir dans des alternatives, comme mon collègue ici présent a pu le présenter, le réseau S également, qui n'est pas nécessairement connu. Et donc il faut faire davantage la promotion. On pourrait aussi d'ailleurs le développer. Eh bien, c'est une alternative concrète qui permet de relier aussi d'autres zones de Bruxelles qui ne sont pas nécessairement accessibles via le métro aujourd'hui. Et donc voilà, pour nous, il faut dans un premier temps faire en sorte, via la carotte, de faire en sorte que les gens s'intéressent à d'autres alternatives avant de se dire qu'en fait, on va les contraindre, voire les étouffer, pour les pousser à adopter culturellement une autre méthode de mobilité qui souvent a des impacts, notamment sur leur foyer, parce que je vous invite à perdre une heure dans vos transports, déjà ne serait-ce que mentalement, c'est pas dingue, allez travailler comme ça et puis rejoignez votre famille 2 heures en retard, 1 heure en retard, parce que justement il y a trop de trafic en voiture, ou alors parce qu'en fait tout simplement les réseaux de transport public ne sont pas assez développés. Ça facilite personne.
30 secondes, Osni et Saïweki, les engagés.
Je vais essayer de faire court. Pour moi, c'est un échec total. C'est-à-dire que même au niveau du dialogue au niveau de la ministre de la Mobilité, c'est au niveau de la population, il n'y a aucune communication. Donc, c'est-à-dire que le plan Good Move, le nom, il est super. Mais dans l'instauration, ça a été, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, ça a été une dictature. C'est-à-dire qu'on imposait dans des quartiers des suppressions de places, des sens interdits. Moi, j'ai une voisine qui est pharmacienne, on lui a fermé un rond-point, elle a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Elle avait voté écolo. Elle ne le fera plus, je pense. Donc, à un moment, est-ce qu'on doit encore se poser la question, est-ce que c'est un échec ou une réussite, quand vous avez des citoyens qui viennent disquer des sens interdits à Schaerbeek, qui viennent les jeter à la place communale, à Anderlecht, où ils viennent au conseil communal gueuler, crier leur mécontentement. À un moment, le politique, il doit arrêter dans sa tour d'ivoire en disant, je cite un ministre Pascal Smet, qui est Voreuil, donc socialiste, qui dit à un moment, il faut expliquer aux gens comment être heureux. Et j'ai l'impression qu'Écolo, dans sa doctrine de absolument good move, c'est ce qu'ils ont fait. Les engagés, on est pour une ville plus apaisée, bien sûr. Moi, c'est dans mon quartier, il y a moins de voitures qui passent, il y a moins de pollution. Mais j'ai encore le choix d'utiliser ma voiture ou non, why not? Mais quand vous avez des transports en commun qui sont dans une insécurité totale, il y a des toxicos partout, il y a des agressions tout le temps, vous supprimez la voiture du citoyen en le forçant à prendre les transports en commun, ou même moi j'enverrai ni ma sœur ni ma copine dans le transport en commun après 20 heures, parce qu'il y a une insécurité totale. Donc avant même de supprimer des places de stationnement, avant même de boucher les rues, avant même de supprimer des mailles, investissez dans le transport en commun. Les Bruxellois le feront demain, abandonner leur voiture. Mais là, c'est non. C'est, on vous impose des fermetures de rue, on vous impose des suppressions de places, on n'écoute pas la population, on n'écoute rien. Et après, vous voulez que la population soit d'accord avec vous. C'est un non total, c'est un échec total. Il faut une ville plus apaisée, mais avec la concertation citoyenne.
Le temps file, mais je prends le temps de lire le SMS d'un auditeur ou d'une auditrice. Bonjour, bonsoir. Je viens de vous rejoindre à entendre la personne qui était policier. Je reste bouche bée par ses propos. Il a tout dit et vu les statistiques, il faut bien éduquer la population. Droit, communication, technique d'intervention. Beaucoup de policiers, j'étais témoin de leurs interventions. J'étais élève d'un homme bien connu qui donnait cours à l'Académie de police. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a malheureusement trop de criminalité à Bruxelles. Voilà qui est dit. Gérard Mouguet-Magango, PTB. Pourquoi le PTB s'oppose au développement du métro à Bruxelles ?
Mais en fait, on n'est pas contre le développement du métro et encore moins contre le développement du transport public. Donc on pense que c'est effectivement la solution. Donc le plan Good Move, le problème c'est que c'est l'écologie punitive. Ça a rendu l'écologie très impopulaire. Nous, on pense que l'écologie est essentielle, c'est nécessaire. Et donc nous, on veut effectivement plus d'investissement dans les transports publics. On veut augmenter la capacité de 20%. Parce qu'on entend dire qu'il y a des nouvelles lignes qui ont été créées, peut-être, mais surtout le passage, le nombre de passages des bus, etc., a extrêmement diminué. Donc on a 140 passages en moins, 150 passages en moins. Donc c'est un peu du marketing aussi de dire ça. Et donc nous, là-dedans, ce qu'on veut, c'est rendre les transports en commun gratuits. Donc pour que les 40% de Bruxellois qui les utilisent et les 50% des gens qui n'ont pas de voiture puissent effectivement les utiliser. Et on veut aussi rendre gratuit la tech de Lane, donc aussi en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Et le train à Bruxelles, le rendre aussi gratuit. Et comment on va le financer ? Ben parce que les employeurs payent déjà en fait des indemnités de transport. Si on prend ces indemnités de transport, ça pourrait vraiment aider à financer le transport en commun. Alors le métro, ben il est évident. C'est 1 milliard qui est devenu 4 milliards. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. Et donc on est obligé de remettre ce projet sur la table et on veut le confier à des entités publiques au lieu de le garder pour des entités privées qui s'enrichissent avec ça.
Dimanche, nous votons. C'était ce soir la dernière de Place Publique. Une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur vos plateformes habituelles. Merci à toutes mes invitées et merci à tous mes invités. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre confiance et votre fidélité. Merci aussi à la direction d'Arabelle, évidemment, pour sa confiance tout au long de cette saison. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bel été et je vous dis à bientôt.